Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est un sociologue bien dans ses baskets, un sociologue new generation qui fait ses lacets, soit pour hurler dans le micro avec ses potes punk, soit pour retrouver ses élèves, Toufik, Zora ou Lison. C'est ça, Fabien Truong a plusieurs baskets. Après avoir été prof, éducateur et enquêteur, lire son « Loyauté radicale, l'islam et les mauvais garçons de la nation », lui qui enseigne aujourd'hui la sociologie à l'Université Paris 8, nous revient d'un voyage étoilé entre la ville de Saint-Denis, en banlieue, la Nouvelle-Calédonie et le Vietnam. Fabien Truong, qu'on imagine toujours en jean, signe La taille des arbres, roman romanesque et sociologique où la paire de baskets est escortée à la fois par des élèves issus de l'immigration et par le fantôme d'un grand-père vietnamien parti trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que du rock énervé à l'enquête sociologique, de la Beauce française à votre demi-pays, on est ravis de vous tendre notre fauteuil en sol majeur, Fabien. Bonjour à vous.
Bonjour, moi je suis aussi ravi d'être avec vous.
Est-ce qu'on peut dire que le rock peut mener à la sociologie? Est-ce que c'est une des voies possibles?
De fait, oui, c'est une des voies possibles. Le chemin n'était pas tracé d'avance. Hein. Je pense que c'est une série de rencontres, d'allers-retours qui font qu'à un moment donné, on fait des choses et puis d'autres. Et puis, je pense à la question de l'aventure, parce qu'un groupe, c'est avant tout une aventure humaine. C'est quelque chose de très, très collectif. Hein. Et faire de la sociologie, c'est aussi s'intéresser au collectif. Donc, ouais, y a forcément des liens. Hein.
Bah voilà une émission pour vous tout seul, néanmoins. Bienvenue en sol majeur. Comme une petite ambiance hypnotisante, un groupe britannique gentiment folk, et ça m'étonne de vous, Fabien Truong.
Oui, bah en fait, j'écoute beaucoup de choses très différentes.
Je vous taquine. Pourquoi This Is The Kid, c'est le nom du groupe?
Alors parce que en fait, c'est une musique qui est à la fois très éthérée, mais en fait, quand on on entend le fond des notes et ce qui se raconte. Il y a aussi beaucoup d'âpreté. J'aime bien en fait cette espèce de mélange. Et c'est aussi ce morceau-là particulièrement, parce que je l'ai utilisé dans un film que j'ai co-réalisé avec Mathieu Vatpied et qui s'appelle Les Défricheurs, un documentaire qui est sorti en 2019. Et voilà, ça m'évoque aussi du coup nos aventures pour ce film.
Comment commencer ce portrait en sol majeur avec vous, Fabien ? Peut-être avec des sons à la fois étrangers et ô combien familiers pour vous.
Paycom.
Bravo 3, Bravo 6, send me a grid, over.
Pays secret, pays d'enfance.
Car dans la liste de sons que vous m'avez envoyés, il y avait l'évocation de deux films, Platoon et Apocalypse Now.
Oui, alors Platoon et Apocalypse Now, ça a été des chocs en fait quand je les ai vus, parce que du coup je me suis pris un peu en pleine face, et c'est un petit film qui produit cet effet-là, la guerre, enfin en tout cas une vision de la guerre, et ça contrastait tellement en fait avec moi ce que j'avais intériorisé de cette histoire-là, puisqu'en fait...
L'histoire de la guerre du Vietnam ?
Oui, la guerre du Vietnam, parce qu'en fait, moi je savais que ma famille venait du Vietnam, et on habitait avec notre grand-mère, parce que voilà, toute la famille avait dû fuir, etc. Donc la présence vietnamienne, elle était hyper présente en fait, au quotidien. Mais c'était une présence feutrée avec du silence, beaucoup de silence. Et donc je savais que d'une certaine manière, je venais de là-bas, mais sans mots, sans vraiment compréhension de pourquoi en fait ma famille était partie. En voyant ce film, je me rends compte qu'il s'est passé des choses terribles. Oui, des choses qui laissent forcément des traces encore aujourd'hui présentes et qui, du coup, expliquent sans doute ma présence en France.
Vous avez une formule, Fabien Truong, pour parler du Vietnam. Vous en parlez comme d'un demi-pays.
Oui, pas parce que c'est un demi-pays. Alors, pourquoi j'ai utilisé cette expression ? Je ne me suis pas spécialement posé la question en l'écrivant. C'est venu comme ça. Demi, parce que... Alors, c'est peut-être une expression un peu physique, c'est quelque chose de demi. Il y a sûrement l'idée d'être coupé en deux, d'être à moitié, d'être un peu comme un fruit ou un légume qu'on couperait en deux. Et ce livre-là, c'est un livre qui raconte, je crois, beaucoup la question du rapport physique et sensible.
Ce livre, c'est La taille des arbres.
Oui, La taille des arbres. Elle raconte un peu ce rapport sensible et physique. Et donc, demi-pied, j'ai l'impression que c'est le bon mot, mais j'ai... Je n'ai pas réfléchi plus que ça, en fait.
Mais que l'histoire de vos deux pays, donc la France et le Vietnam, soit intrinsèquement liée à une certaine époque, est-ce que ça, vous en avez été conscient assez rapidement ?
Oui, en fait, mon grand-père et ma grand-mère, du côté de mon père, donc du côté vietnamien, sont venus vivre chez nous, donc... très petit, j'ai souvenir de cette présence continue. Alors mon grand-père est mort assez vite, je l'ai connu que un an et demi. J'ai des souvenirs épars qui sont très physiques, des cacahuètes, un regard, une forme de présence, mais qui me semblait déjà très étrangère d'une certaine manière. C'est-à-dire je comprenais que c'était mon grand-père, mais je voyais bien dans sa façon de me regarder, de s'habiller, de marcher, qu'il venait de loin en fait.
Viên hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Petit petite explication peut-être en sol majeur de votre paysage sonore et très intérieur, Fabien Truong.
Oui, alors vous êtes allé chercher un grand écart là. Alors le premier son, c'est un son de prière, donc on parlait de la prière de ma grand-mère. Alors assez différent, là c'est un son de prière qui est destiné à être entendu publiquement, qui est très énergique et dynamique et hyper musical.
Vous y connaissez un peu quand même.
Vous
avez des rudiments, quoi.
Oui. Mais en tout cas, ça m'évoque ma grand-mère qui priait plusieurs fois par jour devant l'autel où siégeait la photo de mon grand-père avec un bol de fruits qu'on garnissait très régulièrement. Et donc, du coup, cette musique a toujours été très, très présente en moi. Et en fait, elle me faisait rire quand j'étais enfant parce que c'était des onomatopées, mais rire au sens où je trouvais ça rigolo, joli, marrant.
Donc, langue étrangère, quoi.
Voilà, langue étrangère, mais en même temps, voilà, des fruits, la maison, c'est très, très quotidien. C'est vrai que pour moi, le vietnamien, c'est avant tout une musique. C'est pas une langue que je peux intellectualiser.
Oui, mais c'est intéressant que vous disiez que c'est une musique, d'ailleurs. Et dans votre banque de sons, on va dire, d'enfance, effectivement, il y en a beaucoup qui concernent ce Vietnam au quotidien. Donc, cette prière, le nouvel an chinois ou vietnamien, est-ce qu'on peut imaginer ou sentir une continuité harmonique entre cette prière bouddhiste qu'on vient d'entendre et que vous entendiez régulièrement à la maison et les accords de ce morceau qui était très punk et très énervé, Timor, d'ailleurs c'est le moins énervé de votre album Laisse-toi faire qui est sorti chez Universal il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une continuité harmonique ?
Alors là, je n'ai jamais ni réfléchi à la question et je me suis posé la question en entendant votre mix. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Par contre, je me suis dit en écoutant ce morceau que c'est un morceau qui parle de la zone d'Asie du Sud-Est.
Pour oui, le coup, vous évoquez un peuple lointain volé sans fin sur une île plongée dans l'océan Indien et vous citez Hiroshima et Nagasaki. C'est un texte engagé.
Oui, alors notre groupe était engagé. Alors je ne sais pas si c'est toujours un terme qui m'a posé un petit peu. On est toujours en fait
concerné.
Indigné. Indigné, ouais, peut-être. Indigné, c'est peut-être un meilleur terme. Oui, indigné. Ça me paraît probablement plus juste. Mais indigné parce qu'il se passe et ou a pu se passer, dont on ne parle pas assez. Et là, en l'occurrence, c'est une chanson qui parle du Timor oriental et d'un. C'est un génocide, en fait, auquel de nombreux pays occidentaux sont très, très clairement partie prenante pour des enjeux liés aux énergies fossiles, géopolitiques et l'argent, au final. Et oui, je pense que j'étais très, très touché par ce génocide, sans doute aussi parce que ça tourne autour de la zone du Vietnam, comme je l'explique aussi dans La taille des arbres. J'ai beaucoup tourné aussi autour du pays sans jamais complètement y aller, peut-être pour aller retrouver la physicalité en fait, du climat, des odeurs, où il y a une forme de familiarité, même si tous ces pays sont différents. Et en même temps, continuer à me sentir étranger, parce que ça reste un peu confortable, en tout cas pour moi, à un moment donné. C'est-à-dire que ma première expérience au Vietnam, ça a été avant ce voyage-là. Et en fait, la sensation, c'est la première fois où j'ai posé le pied, où je suis sorti de l'avion, je me suis senti, mais viscéralement, chez moi. Alors que c'est pas du tout, enfin, je fantasmais pas spécialement le retour au pays, entre guillemets. Et bah, du coup, maintenant, je peux répondre à votre question. Voilà aussi pourquoi peut-être le demi-pays. J'ai senti que c'était, il y a une forme d'égalité, finalement, entre la France et le Vietnam. Alors, la chaleur, l'odeur, j'étais chez moi, quoi. C'était un sentiment intérieur très, très fort. Et en même temps, quand vous marchez dans la rue, j'ai pas du tout une tête de Vietnamien. Et de toute façon, tout se voit, en fait, dans mon corps. Voilà, par exemple, Pierre Bourdieu parle d'exis corporel. Voilà, on porte sur son corps sa trajectoire sociale. Et en fait, c'était à l'époque de 98, ce voyage. Mmh. J'avais les cheveux longs.
20 ans.
À Katogan. Et on m'appelait dans la rue Emmanuel Petit. Quoi, parce que c'était le dernier buteur de la finale de la Coupe du Monde. Et voilà, et du coup, ça en dit long et ça m'a un peu mis un peu mal à l'aise. Alors, au sens où il y avait vraiment un hiatus entre ce que je ressentais intérieurement, je suis chez moi, et ce qu'on me renvoyait, c'est tu viens de France.
En tout cas, vous tournez de moins en moins autour du pot, si j'ose dire, Fabien Truong. Et pour revenir à cette période de vie où vous avez été dans une forme de vie double, entre à la fois les livres et le punk, apparemment c'est possible. Vous avez fait une classe prépa, vous avez fait l'ENS et puis votre agrég, bien sûr. Et vous qui cheminez, on peut dire, vers une sociologie un peu punk rock, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette terminologie, un jour, Vous avez un choc intellectuel qui s'appelle Howard Baker. Il a 93 ans aujourd'hui, monsieur. Howard Baker, qui ne fait pas que de la sociologie.
Toute la vie est une activité pratique. Il faut faire quelque chose. Maintenant, OK, je le fais. Je regarde la situation, oui. Je prends qu'est-ce que je peux prendre et essayer de travailler avec ça, d'extraire ce qu'on peut trouver là et essayer de l'utiliser. Si le résultat marche, bon. Sinon, il faut trouver quelque chose d'autre.
Qu'est-ce que c'est que ces intellectuels qui jouent du piano, de la guitare ou qui tapent dans le ballon ? Extrait du film, qui est un documentaire en fait, Howard Baker et les mondes de l'art, avec cette question pour un sol majeur, en quoi ce Howard Baker vous a aidé à trouver votre voie dans la sociologie, Fabien Truong ? Et je pense à votre enquête parue dans votre livre Loyauté radicale, où vous avez enquêté notamment sur Amédi Coulibaly, un des auteurs des attentats terroristes de janvier 2015 dans notre pays.
Oui, alors, en fait, Howard Baker, ça a été, comme vous l'avez dit, moi, après le bac, j'ai fait une classe prépa. Il y avait une discipline qui s'appelait la sociologie dans cette classe prépa. Voilà, ça c'est la terminologie d'éducation nationale.
Nous noyez pas.
Et je ne savais pas ce que c'était, mais le mot m'intéressait. Et j'avais choisi, je ne sais plus quand c'était fait, de lire et de ficher, entre guillemets, ce livre de Howard Baker, Outsiders.
Qui est son livre, hein, sur, on va dire, la déviance.
Oui, alors du coup, c'est un best-seller de la sociologie mondiale. Et c'est un livre donc, qui a été publié en 1963. Et il explique qu'est-ce que c'est que, enfin, d'être musicien de jazz à cette époque-là. Alors il faut resituer, parce que être musicien de jazz et d'un certain jazz à cette époque-là, c'est peut-être faire du punk ou du hardcore à l'époque où j'en fais. En fait, on est un peu à la marge d'un certain nombre de choses. Et il y a aussi beaucoup de fumeurs de marijuana autour de ces musiciens. Et donc du coup, il explique comment on devient fumeur. Et donc il explique
d'un point de vue sociologique.
Et alors là, j'ai une forme de révélation, parce que je comprends ce que c'est que la sociologie. La sociologie, c'est quoi ? C'est comprendre comment des processus sont réversibles, s'accélèrent, sont liés à des interactions, à des rencontres, à des facteurs sociaux. Et du coup, on prend une forme de hauteur qui nous donne plus de lucidité sur le monde.
Qui est Zach de la Rocha, qu'on va écouter pour un sol majeur sur quelques notes, Fabien Truong ?
Alors, Zach de la Rocha, c'est le chanteur d'un groupe que beaucoup de gens connaissent. C'est un groupe très populaire qui s'appelle Rage Against the Machine.
What else?
Parce que le
morceau que vous nous avez envoyé est assez particulier. Ce que vous nous avez envoyé comme son, ça vient du Mexique?
Voilà, parce qu'il y a une trajectoire migratoire très importante aussi qu'il a construit. C'est aussi pour ça qu'il parle beaucoup des immigrés mexicains, notamment dans ses chansons. Et là, on l'entend chanter en espagnol. Et on l'entend chanter alors que c'est plutôt un rangueur de foule et il est peut-être plus proche du punk et du hip-hop dans son chant que du chant. Et là, il retrouve quelque chose qui est sûrement lié à ses racines et que je trouve très beau et qu'on a peu l'habitude d'entendre.
Hermano, si te has perdido dentro de la cañalera, dentro de la cañalera. Hermano, si te has perdido dentro de la cañalera. Hermano, si te has perdido dentro de la cañalera, dentro de la cañalera. Hermano, si te has perdido dentro de la cañalera. Lanza
comme bleu comme une orange.
Et là, c'est la question au prof, mais pas seulement. À quoi vous fait penser ce fameux vers ? La terre est bleue comme une orange.
Oui, c'est un vers de Paul Éluard. Et les deux voyages en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam, qui sont au cœur de la taille des arbres, partent de Paul Éluard.
Et Paul-Éluard, que vous écrivez en un seul mot.
Oui, alors Paul-Éluard, le lycée de Saint-Denis, qui s'appelle ouais. Paul-Éluard, mmh. et que j'écris en un seul mot, sans majuscule, en italique. Je parlais de la physicalité, de mélanger les émotions, et Paul-Éluard, ça devient autre chose qu'un lycée, autre chose que ce poète. C'est nous, d'une certaine manière, mais c'est nous, c'est aussi ce qu'on peut représenter quand on traverse les frontières, et donc ça nous dépasse. Et d'une certaine manière, il nous avait prévenus en écrivant ce vers-là, c'est-à-dire la terre est bleue comme une orange. Alors c'est toute sa poésie, où l'idée c'est de décaler les choses, de voir qu'en fait c'est pas toujours ce qu'on croit qui est ou auquel on doit rêver, ce genre de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ces voyages, c'est-à-dire qu'on est parti avec nos petites attentes.
Alors et... on, c'est des élèves de Saint-Denis, c'est sur l'initiative d'un professeur du lycée Paul-Éluard. Vous êtes invité, vous, Fabien Truong, en tant que sociologue. Et vous allez revenir la plume à la main, si j'ose dire, dans la taille des arbres, pour raconter ces deux voyages parallèles, la Calédonie d'un côté et le Vietnam de l'autre. Et sous votre plume, ça va se fondre dans une expérience et dans une immersion collective et intime. Quel était le but, vous diriez, en partant de Saint-Denis, ce coin de banlieue du 9-3 en France, et en jetant dans le chaudron ces élèves dans le chaudron de deux réalités très différentes, la Calédonie et le Vietnam? C'était quoi le but de ce voyage?
Alors, pour Pierrot, qui est le prof qui organise ces voyages, il n'organise pas tout seul, il est aussi aidé de quelques autres collègues, le but, c'est de déplacer ces élèves très très loin pour qu'ils se retrouvent d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il faut quand même bien voir que ces élèves-là, alors ils ont leur question de type identitaire, c'est-à-dire d'où je viens, etc. Ils sont presque tous et toutes issus de l'immigration et des trajectoires d'ailleurs très très différentes. Hein. C'est-à-dire que quand vos parents viennent d'Algérie, de Tunisie, du Mali, du Sénégal, enfin, c'est pas du tout la même histoire. C'est une histoire, mais c'est des pays différents, qui ont une histoire différente. Et c'est vrai qu'en partant dans des pays où, donc, quand on part, on connaît un peu quand même, en tout cas, on a des bribes de connaissances sur les conflits entre la France, le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, etc., qu'il y a eu beaucoup de violence. Et c'est vrai que les jeunes avaient cet esprit, ils se disent, bon voilà, on est entre colonisés, entre dominés, on va aller voir les nôtres, entre guillemets. Alors j'accélère un petit peu, mais il y avait un petit peu de cet esprit-là. Et en fait, dès qu'ils posent le sol en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, ils sont tout de suite français. Et ils sont déjà perçus comme français. C'est-à-dire que nous étions en délégation, nous représentions la France, et ils étaient très très fiers en fait aussi de représenter la France. Et rien que cet exemple physique en dit très très long sur toutes ces questions qui sont... Alors, elles ne sont pas plus complexes que ce qu'on pense, parce que c'est pas la complexité, mais c'est la nuance, en fait.
Ouais. Pourquoi avoir construit ce roman, qu'on va dire pour l'instant sociologique, comme une sorte de balancier, c'est-à-dire vous alternez des tableaux entre la Nouvelle-Calédonie et le Vietnam?
On part au Vietnam et après en Nouvelle-Calédonie. Et au Vietnam, en Nouvelle-Calédonie, chaque chapitre, on alterne les pays. Et puis ensuite, ça commence à se mélanger. Et plus le texte avance, plus peut-être la distinction, en tout cas, elle est moins nette. Alors justement, c'était un mouvement. Et ça, c'est ce que permet la littérature. Et c'est pour ça que c'est la littérature et pas de la sociologie. C'est-à-dire d'approcher une forme de vérité avec une sensibilité un peu circulaire. Et d'ailleurs, cette sensibilité circulaire, c'est... je crois, ce qu'on a tous appris auprès du peuple kanak et des tribus dans lesquelles on a habité. Et c'est pas la même façon de penser, de raisonner. C'est-à-dire on pense par correspondance, en fait. Et ce mouvement qui est assez doux, d'une certaine manière, mais en même temps assez puissant, j'avais envie qu'il apparaisse dans le texte et dans sa construction, qu'il suive aussi ce chemin-là.
On va y revenir, mais pour l'instant, j'aimerais sentir avec vous, Fabien Truong, quelles vibrations vous en avez ramenées. On va se diriger vers la page 108. Vous et ces élèves de Saint-Denis, vous vous retrouvez dans le vert immense du Vietnam, avec boue, araignée, douche au tuyau, la taille des arbres, extrait.
Notre bus s'arrête en bordure de champ. Mr. Tung parlemente avec un groupe de femmes au chapeau conique pour négocier la leçon de choses. Nous prenons place dans le sillon, comme si de rien n'était. Elle rit franchement de la position accroupie des Paul-Éluard. Trop grand pour faire semblant, et de la gaucherie des Vincho aux mains lisses et maladroites. Des cueilleuses à Mr. Tung, l'intrusion rend tous les Vietnamiens hilares. Notre inaptitude révèle trop grossièrement l'étanchéité de nos vies pour être feinte. Paysans contre étudiants, campagnards contre citadins, Vietnamiens contre Français, femmes contre garçons, vieux contre jeunes. Mieux vaut en mourir de rire. Bar et Sadio pointent le matérialisme de la situation. C'est chaud comme elles sont grave exploitées. Et puis, cette odeur d'oignon frais, c'est abusé, on se croirait au kebab. Nous sentons arriver le point de non-retour. Alors nous repartons en lassant des merci trop appuyés et en laissant nos hôtesses à une tâche qui jamais ne sera la nôtre.
Merci professeur Truong pour En sol majeur, avec donc vos élèves, vous-même, les autres. Vous devenez tous, si j'ose dire, une source d'observation et une matière sociologique.
Oui, et en fait, à vrai dire, quand j'ai vécu ces voyages-là, j'ai longtemps pas trop su en fait ce que j'allais en faire. Parce que quand je fais des enquêtes ethnographiques, c'est des enquêtes qui s'étalent sur un temps très très long, en tout cas qui se comptent en années. Et là, en fait, c'était un concentré. C'est deux voyages qui durent deux semaines ou un peu plus. Donc c'est beaucoup plus court, mais en même temps, c'est hyper long parce que dans ces deux semaines, on se prend l'histoire, en fait, voilà. L'histoire longue. Et donc, je me suis dit, pour rendre compte de cette vérité, de cette expérience, à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas l'enquête ethnographique qui se jouait là, même s'il y a une dimension ethnographique où j'ai pris plein de notes, on observe effectivement, mais c'était la langue en fait, oui. Et la littérature qui allait rendre compte de la vérité de toutes ces sensations, et de ces sensations qui font sens aussi, alors elles font compréhension, mais ça passe par de la matérialité, par du physique, par du rythme, et ça c'est la langue.
Donc la littérature au secours de la sociologie.
Un peu peut-être, ouais, ou en tout cas au secours de ce que j'avais vécu.
Oui. Sur cette question de l'altérité qui est au centre hein, quand même de cette aventure collective, il y a des moments, il y a évidemment des rencontres. Par exemple, à Nouméa, là, lorsqu'un certain Jean-Pierre Haïfa, qui est dans son ranch, il annonce tout de go aux élèves de Saint-Denis, ben, moi aussi je suis un bico, parce que son grand-père a été déporté depuis l'Algérie sur le Caillou. Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là, pour ces jeunes qui se trimballent avec des ailleurs ?
Bien, ils comprennent aussi que cette histoire coloniale, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire évidemment de l'Hexagone avec chacune des colonies, mais ce sont aussi des histoires croisées, dont on parle moins en fait. Mais par exemple, alors, la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, c'est presque un cas d'école, parce que c'était une terre de bagne aussi, donc ouais. On envoyait en fait beaucoup de personnes. Et donc il y a toute une histoire de l'immigration algérienne, par exemple, en Nouvelle-Calédonie.
Méconnue.
Dans les renversements, vous voyez, donc ce Jean-Pierre Haïfa, c'est un caldoche. Donc un caldoche, c'est voilà, un calédonien qui n'est pas kanak, on pourrait dire ça.
Un européen.
Ben voilà, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas kanak, parce qu'en fait, il est de sang mêlé, pourrait-on dire. C'est-à-dire que son père était bagnard, sa mère était femme d'un responsable pénitentiaire. Donc il est mêlé, mais il y a toute une histoire, en fait, algérienne. Et en même temps, il est du camp des Blancs, je mets des guillemets, ou des Européens, par rapport aux Kanaks. Et en même temps, il se sent calédonien. Donc, et là, ça pose des questions. Et même si on prend la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi une histoire vietnamienne. C'est-à-dire qu'il y a une présence vietnamienne assez forte en Nouvelle-Calédonie, qui est aussi liée à l'extraction minière en Nouvelle-Calédonie, qui est un enjeu géopolitique majeur. Mmh. Et donc, quand on commence à voir aussi ces croisements-là, on comprend aussi que la question coloniale, c'est une question qui est voilà, faite d'entrecroisements multiples.
Ouais. Et justement, vous leur faites toucher, enfin ce voyage, ces voyages leur font toucher du bout des doigts les différentes histoires coloniales. Vous arrivez par exemple, là du côté du Vietnam, au bagne de Pulo Condor, où là le guide raconte l'histoire très émouvante de l'écolière Vo Thi Cho, je ne sais pas comment on prononce, qui a nargué, on va dire, les Français et qu'il l'a payé de sa vie. Et puis, pour la première fois sans doute de leur vie, vos élèves, enfin, je dis vos élèves, Fabien Truong, ils le deviennent. Je ne sais pas exactement d'ailleurs quel est le lien. C'est un peu complexe aussi, mais les élèves de Saint-Denis entendent parler du fameux agent Orange que les avions de l'US Army déversent en quantité absolument astronomique pendant la guerre du Vietnam et notamment en 1966 dans le maquis de Cucci, comme le raconte, c'était au micro dans Sol majeur d'ailleurs, Trantonia, que vous citez dans votre livre. Trantonia est dans son livre Ma terre empoisonnée.
Alors, la vie maquisarde ne m'était pas très très habituée aussi. Je suis curieuse de tout, quoi. À ce moment-là, les foliants ont détruit toutes les forêts, donc on vivait dans les abris souterrains. J'étais dans un abri. J'ai entendu le bruit d'un avion nous encercler, nous survoler sur notre tête. Moi, j'ai sorti de l'abri et j'étais restée debout. Et j'ai vu un avion qui s'envolait déjà, mais laissant derrière lui un nuage blanc. Et le nuage blanc mais descendait très rapidement. Je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Alors j'étais déjà enveloppée par une sorte de liquide assez gluant. Et je commençais à tousser, à suffoquer. On ne pensait pas à la dioxine. On ne savait pas qu'il y avait de poison là-dedans. On pensait seulement que ce sont des défoliants qui détruisent les arbres, la végétation. Et bien sûr, si on le reçoit, on tousse, mais c'est tout ce qu'on a. Et puis après, on gratte. Et on devient comme de la gale.
La voix en sol majeur de Trintonia, dont vous parlez, donc Fabien Truong, dans votre livre « La taille des arbres ». En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingrédients dans ce livre. Il y a de la... Oui, on parlait de sociologie, mais il y a de l'histoire avec un grand H, de la politique, de la dénonciation d'une posture politique par rapport à cette histoire coloniale.
Oui, c'est vrai que la question de l'agent orange, c'est vraiment un scandale absolu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de Vietnamiens et Vietnamiennes qui aujourd'hui naissent difformes.
Hein. Des cancers, des malformations.
Voilà, parce que et du coup avec une vie qui est très difficile en fait, parce qu'il y a aussi un ostracisme, etc.
Et il y a un grand procès qui est en cours.
Exactement, et parce qu'en fait, les grandes compagnies qui ont déversé tout ce poison, et on voit du coup aussi les questions politiques, ont reconnu la nuisance de ce poison, puisque les vétérans américains, ils avaient mis en place une class action, parce que aussi, évidemment, en ayant manipulé ces barils, sont tombés malades, et ils ont été indemnisés, c'est-à-dire qu'on n'est même pas allé jusqu'au procès, donc c'est-à-dire que ces compagnies ont bien reconnu la nocivité et leur responsabilité, mais ça n'a pas été le cas pour le peuple vietnamien.
Qui êtes-vous dans cette aventure collective?
La question du livre, c'est peut-être pas qui est-on, qui êtes-vous, qui je suis, mais peut-être où sommes-nous?
À quel endroit?
Ouais. C'est peut-être plus cette question-là.
Repartir sur les traces de votre grand-père vietnamien Hong, ça a permis quoi?
Encore, je parle beaucoup de physicalité, mais vraiment, c'était ça. C'est-à-dire que Hong, c'était une figure un peu tutélaire d'une certaine manière. C'était surtout un portrait et quelques souvenirs très précis, mais voilà, j'étais très petit. Mais je savais qu'il avait écrit des livres, il y avait des choses qui passaient comme ça dans la famille, qu'il avait eu une place un peu officielle. En tout cas, voilà, il a écrit, il a été présent notamment lors de conférences pour parler entre la France et le Vietnam.
Un indépendantiste qui n'a pas réussi à détester la France, dites-vous.
Oui, alors du coup, voilà, encore une fois la nuance, c'est-à-dire qu'il était farouchement indépendantiste, par contre il parlait un français, il était prof pendant un moment de français à l'université, et en même temps, voilà, il a travaillé sur la structure de la langue vietnamienne, parce que pour lui la question de la langue était fondamentale, et comment faire comprendre le sens de la structure de la langue vietnamienne avec le français, donc ces jeux autour de la langue, bon, tout ça je l'ai découvert en fait.
Lors de ce voyage?
Un peu, oui, parce que j'en avais une idée assez imprécise, et puis avec Guok notamment, qui a été un de nos guides, on est parti à la recherche des traces de mon grand-père, et notamment des livres qu'il avait pu écrire, ces livres ont été interdits, donc... Dans le livre, on suit un petit peu ce périple pour aller découvrir des exemplaires qui circulent sur une partie plus cachée du web. Et du coup, je me retrouve avec quelque chose de physique, un livre imprimé de l'époque qui parle de la conférence de Fontainebleau, où il était.
Wow.
Et où d'une certaine manière, où il était sans doute un peu sociologue. Du coup, on est toujours lié à ses racines. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu un peu comme un livre d'excès d'entretien. Mais par contre, je ne parle pas le vietnamien. Donc, c'est-à-dire que j'avais cet objet très étrange.
Vous détenez un secret indéchiffrable.
Voilà, alors des fois il y a des mots, Marx, d'accord, Marx, je vois de qui il parle.
Donc, de la sociologie lointaine, de l'histoire, de la grande histoire de l'histoire coloniale, de la biographie d'une certaine manière aussi, dans ce livre La taille des arbres. Et puis il y a aussi une forme de récit initiatique, extrait.
Le soir, nous formons un cercle. C'est notre activité de contrebande, un petit bout de kanaki importé au demi-pays. Telle est notre coutume, un espace arrondi pour laisser advenir le temps des émotions partagées et des moments choisis de la journée. Dans les tribus kanak, il y avait autant de coutumes que d'événements à célébrer. Mais nous entendions pourtant toujours ce même murmure lancinant. entrer en relation pour s'incliner devant la vérité de l'échange en trouvant le juste mot. C'était il y a 2 ans déjà, et avec Pierrot et Clarence, nous retrouvons ces pulsations qui ne nous ont jamais complètement quittés, puisqu'elles rythment le travail silencieux de la mémoire. Zora, Idriss, Feathered, Lison, Jean-Marie Tjibaou et Toufik. Same, same, but different.
Fabien Truong, je sais que vous rêviez d'entendre la voix un peu lente et posée, en français d'ailleurs, des Kanaks quand ils posent la coutume. Et ça, c'est une coutume qui est intériorisée maintenant, que vous avez même emportée jusqu'au Vietnam. Ce dialogue du cercle a été une leçon pour vous et pour les élèves.
Ah oui, une grande leçon. C'est-à-dire que alors c'est très très beau, en fait. Dans les tribus Kanaks, on signe la rencontre par un échange de paroles, mais un échange de paroles qui est très très loin des échanges peut-être un peu convenus qu'on peut avoir dans nos sociétés quand on se présente ou on est en représentation, en fait. Là, c'est pas tant l'idée de la représentation que d'aller au fond de pourquoi on se rencontre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière la rencontre. Et donc du coup, avec un temps qui est très lent, on prend le temps d'instaurer la rencontre, de la ritualiser, et donc avec un débit de paroles qui est lent par rapport à nos standards. Nous, on a toujours tendance à accélérer, on garde le chronomètre.
Le cercle.
Voilà, et la parole dérive justement de cercle en cercle, d'une certaine manière.
Circulation.
Et en fait, on a appris, c'est-à-dire que comme on a beaucoup circulé dans ce voyage, à chaque nouvelle arrivée, nouveau départ ou événement, ça peut être un événement particulier, et plus le temps passait, plus on arrivait et savait comment... Je parlais d'exercice corporel tout à l'heure, comment se poser, comment s'asseoir, comment prendre le temps, comment imprimer physiquement l'acquiescement. Alors il y a un son, on fait « hey ». Peut-être je le fais très mal comme ça, il faudrait être des moments où tout le monde acquiesce. Et en fait, on vit dans une société qui fonctionne tellement aussi sur la mise en spectacle du clash, de l'affrontement. Alors, c'est tellement inverse, en fait. On va chercher les acquiescements, mais pas les acquiescements de façade, des acquiescements assez profonds. Et c'était une très, très grande leçon pour chacun et chacune.
Pourquoi ce titre, La taille des arbres ?
Alors, c'est un titre que j'ai eu assez vite, parce que du coup, on a une leçon aussi à apprendre de ces arbres, je pense. Enfin, nous, on a appris déjà, on était beaucoup plus en connexion avec... la nature et notre environnement, ça c'est une première chose, mais c'est aussi en fait la métaphore des arbres, parce qu'en fait les arbres ont des racines, et on parle tout le temps de recherche d'identité, de racines, mais les racines des arbres sont des racines vivantes qui sont tout le temps en vie, qui communiquent, et là, ces arbres regardent aussi le ciel, mais jamais ne se moquent. Et nous, quand on domine une situation en général, en tant que les êtres humains, on a cette tendance quand même à mépriser ou à écraser. Et puis la taille des arbres, c'est aussi la taille au sens de tailler une plante, en fait. C'est-à-dire que on grandit, on pousse aussi en étant coupé, éduqué, formaté, transformé. Donc il y a aussi cette dimension.
Ouais. Je ne sais pas si vous avez la main verte, moralité, ça, c'est... je ne sais pas. Mais vous qui avez grandi dans un coin qui s'appelle Pithiviers, donc au centre de la France, est-ce que vous croyez, comme vous l'écrivez, d'ailleurs peut-être... Après avoir observé un banyan aux racines en berlificoté, je pense que c'était en Nouvelle-Calédonie, peut-être, est-ce que vous pensez que, je vous cite, les minéraux racontent la vie des ancêtres et l'interconnexion entre les clans et les familles ?
Ça, c'est ce qu'on a appris, effectivement, de plusieurs contes kanaks. Alors, le banyan, c'est un arbre qu'on trouve dans les deux pays et qui fait la connexion. Et c'est un arbre qui a des racines hyper protubérantes. Donc, du coup, la question des racines chez cet arbre-là, elle est extrêmement physique et elle l'interroge. Et c'est aussi un arbre colonisateur. C'est-à-dire que c'est un arbre qui... qui va trouver un arbre relativement développé, qui va l'étouffer, qui va vivre sur cet étouffement. Donc, on peut lire en fait ce que fait cet arbre au monde de manière très très différente. Et c'est vrai que du coup, en étant en connexion avec la nature, et notamment via ce à quoi vous faites référence, c'est l'histoire de Théa Kanaké, le premier homme, et en fait la leçon du conte de Théa Kanaké, et c'est une leçon aussi que nous ont appris les Kanaks d'une certaine manière, c'est que on ne pouvait pas piétiner la nature impunément. Et ça, c'est quelque chose maintenant qu'on, je crois, en Occident, qu'on commence à comprendre. En tout cas, ça commence à émerger. Et là, c'est dit dès le départ. Et dès le départ, il y a des règles intangibles sur cette question-là qui permettent aussi de comprendre qu'est-ce que c'est que trouver sa place. Parce que trouver sa place, c'est aussi trouver sa place vis-à-vis de l'environnement qui nous accueille, qui est cette planète Terre. Et penser aussi le social avec le minéral, je crois que c'est une grande leçon, quoi.
Kawa Bistro Weekend. Quel est le mot de la langue française que vous préférez?
Fabien Truong.
Alors là, vous me prenez de court. Quel est le mot de la langue française que je préfère?
Après tous ces mots français aux origines diverses, hein, kawa, bistro, week-end.
Ah, il faut que je choisisse sur kawa.
Non. Petite remarque en sol majeur au passage.
Oui, pour répondre à cette question, il faudrait que j'ai des convictions très très fortes, je crois.
Ah, vous n'en avez pas?
Et je ne suis pas sûr de... en tout cas, c'est un peu le message du livre, de brouiller un certain nombre de choses. J'aurais pas envie d'arriver avec un mot porte-drapeau. Et je crois que quand on travaille la langue, en fait, on aime tous les mots, en fait. Parce qu'un mot, il prend son sens et sa beauté, sa puissance dans un ensemble.
Vous êtes pour le cercle, là aussi, le cercle
des mots.
Oui, donc
là, comme ça, j'aurais du mal à choisir un élu ou une élue.
Oui. On va se quitter, en tout cas, avec une dernière lecture de La taille des arbres qui paraît, je ne l'ai pas encore dit, aux éditions Rivage. Avec cette dernière question, c'est le banyan qui me l'inspire, le banyan qu'on évoquait à l'instant entre... les cimes et les racines, vous en êtes où aujourd'hui, Fabien?
Entre les deux. Mais je pense qu'on est tous et toutes toujours...
Donc ça plane pour vous? J'ai cette image de vous planant dans les airs.
C'est bien de planer, oui, ça me va bien de planer, oui, planer dans les airs. Si on peut chercher pour décoller un peu, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde.
Mais la question de l'identité, est-ce que finalement ça a été une question d'ailleurs? Ça l'est devenu? Ça ne l'a jamais été?
Ça l'est toujours sans complètement l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de réponse définitive. Les réponses ne sont jamais définitives et on vit quand même un moment où... Et parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et les incertitudes, elles sont... beaucoup plus lié à la question des inégalités sociales ou de la catastrophe écologique qui vient, en fait, au fond. Mais quand on vit des moments d'incertitude, on a besoin, en fait, d'images, de totems, on pourrait dire, auxquels se raccrocher. Et il y a un peu un vent, en ce moment, qui laisserait croire que ces totems sont liés à l'identité, à une forme de passé un peu mythifié qui nous donnerait une boussole pour l'avenir. Et ça, c'est, je dirais, exactement le mouvement inverse de ces voyages et du texte.
D'autres boussoles que vous proposez.
Oui, et des boussoles qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont, quand on le dit, qu'elles sont amenées à être changeantes, ça ne veut pas dire qu'elles sont, lâches, enfin, au sens physique du terme. Elles peuvent être très, très fortes, mais elles s'adaptent aussi au mouvement du monde et de la vie. Et quand même, la vie, c'est du mouvement, c'est pas autre chose. Je n'ai pas le trouble revendicatif. Je ne me sens pas vraiment vietnamien, je ne parle pas la langue. Et lorsque l'on doute de mon French flair, on me prend en général pour un Sud-Américain. Mais le Vietnam rôde sur les côtés. Ma grand-mère Ba vivait avec nous depuis son exil. J'avais 5 ou 6 ans quand elle est arrivée à la maison. Omniprésence discrète, drapée d'un amour indicible. La faute à une absence de vocabulaire commun. L'affection passait par les plaisirs du palais. La cuisine était devenue son monde, peut-être sa seule raison d'être là. Ces plats ont peu à peu incrusté des mots odorants sur ma langue. Nem, mi, bun, ga, bunbo, lapxion, banbo, pho, canchua, nuoc cham, ban mi chao, tiato. Il y avait aussi le poivré de l'encens devant l'hôtel de Hong, mon mystérieux grand-père, en noir et blanc. Je répétais les prières, sans rien comprendre, pour faire plaisir et parce que les onomatopées faisaient marrer le frangin.
La taille des mots et la taille des arbres, délicieusement signé Fabien Truong. Et puis maintenant, on va être obligé un peu de remettre les baskets. D'un mot, pourquoi Sunday Bloody Sunday de U2, qui a été repris par magnifiquement d'ailleurs Saul Williams, Fabien Truong, on va refermer cet en sol majeur avec ce morceau.
Eh bien, parce que j'aime bien l'idée de la revisite, en fait. Et là, c'est une reprise d'un classique, on pourrait dire, hein, Sunday Bloody Sunday, qui a aussi cette beauté d'être à la fois très populaire et d'être âpre, puisque c'est un morceau qui parle quand même d'un moment terrible de l'histoire. Et le morceau est devenu aussi une sorte de monument. On a l'impression que les monuments, on ne peut pas les revisiter. Et je pense que Saul Williams a fait la prouesse d'y arriver. Donc, voilà.
D'adrénaline en sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux ou encore derrière votre poste. Ça se passe chaque samedi, chaque dimanche. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures en sol majeur.